On va donc entamer cet après-midi par une table ronde sur la thématique du chasseur, cette créature contemporaine. Pour répondre à des questions justement sur la vision moderne, pour ne pas dire urbaine, du chasseur de vampires, on a donc un panel d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet chacun à leur façon. Donc je vais vous les présenter de la plus éloignée au plus proche. Donc tout au bout, Marika Gellman, auteur donc de la série Maeve Regan, 5 tomes parus chez Milady, qui a aussi d'autres projets en cours. Likam, qui est romancière et noveliste, en fait, à qui on voit la série Le Mâche-Tu, notamment, et beaucoup de nouvelles et de recueils de nouvelles qui mettent en scène des vampires de manière un peu trafiquée, on va dire. Originale, oui. Jana Deba, donc, qui a œuvré deux fois sous la forme romanesque sur le thème du vampire, avec Métaphysique du vampire et avec L'Héritière, qui vient de sortir aux éditions QSF, et qui a été anthologiste sur le vampire à contre-emploi, qui est paru chez Nemos il y a quelques mois, et qui explore les liaisons possibles entre le thème du vampire et la science-fiction. Et juste à côté de moi, donc Mathieu Guibé, à qui on doit deux romans sur le thème du vampire, donc Even Dead Things Feel Your Love et Elvira Time, qui va particulièrement du coup nous intéresser pour la présente table ronde. La première question que j'ai envie de poser à nos auteurs, c'est dans les œuvres contemporaines sur le thème du vampire, que ce soit les vôtres ou d'autres que vous avez pu lire, est-ce qu'il y a une arme que vous trouvez particulièrement originale ou une méthode, une manière de tuer les vampires que vous trouvez particulièrement originale qui, selon vous, montre en fait une évolution en fait dans les techniques de chasse contre les vampires? Mathieu?
Dans les œuvres récentes qui m'ont le plus marqué au niveau de la diversité des armes, c'est plus sous l'aspect cinématographique. Je pense notamment à Ému en enfer, le film de Robert Rodriguez, où on découvre une espèce de casque de chasseurs de vampires qui ont des armes plus ou moins originales. Le Sex Machine Gun, voilà, c'est peut-être le plus original que j'ai vu. C'est un revolver à forme phallique. C'est juste ça. Ça change du pieu et de l'arbalète.
Je vais faire Joker parce que là, je ne vois pas, a priori. Je te laisse faire.
Moi, le chasseur de vampires étant pas ma créature préférée, je préfère les vampires. Je dis tout de suite. Par contre, il y a peut-être une chose qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est sur les armes utilisées contre les vampires. On se rend compte que c'est de moins en moins quand même la religion, c'est de plus en plus la science. Donc, j'irais pour un bon vaccin anti-vampire.
Je l'ai pas lu. Alors, j'ai pas vu et lu beaucoup sur les vampires, mais moi, je me suis toujours dit qu'une lampe à UV pour faire claquer un vampire. Je suis sûre que ça existe, mais j'ai pas. C'est toi, tu
Alors d'anglais, je sais pas, mais je l'ai fait, non.
Alors ça m'a pas marqué comme moi, je pensais plutôt genre un petit solarium.
Il se suicide, mon vampire, ça s'appelle Gilles en Duché.
Ah, son et vampire se suicide.
C'est un vampire de la fin du monde qui a recréé l'humanité dans mon histoire. Et comme il supporte pas, finalement, de manger son troupeau, c'est le dernier vampire et il a recréé l'humanité après. Catastrophe nucléaire. Il supporte pas son état, sa condition et ce qui va se passer après. Donc, après avoir élevé une humanité nouvelle, qu'il a soigneusement conditionné à être pleine d'amour les uns pour les autres, solidaires, etc., il se suicide dans sa cabine en utilisant les lampes UV dont on se servait dans le solarium.
C'est donc quoi? Il y a quelque chose avec les balles.
Mais j'avais pas vu dans Blade.
C'est dans Underworld qu'il y a des balles. Bah, ça.
Je me souviens d'une nouvelle de Christian Léourier dans Vampire à contre-emploi. En fait, ils utilisent le vampire pour administrer des cures de jouvence. aux gens et ils vendent ça. Et finalement, ils tuent les vampires en les saignant comme des cochons, en fait. C'est un renversement. Mais c'est pas une chasse dans cette nouvelle, c'est juste une utilisation froide, capitaliste, des capacités vampiriques. Celle-là, ça m'avait marqué, en fait. Mais je n'y ai pas pensé parce que je pensais film.
Bah, c'est la question était les armes modernes pour tuer les vampires, c'est vraiment tout ce qui a trait à la science, donc du coup mon fameux c'est un fantasme, enfin une pensée, c'est pas un fantasme, c'est juste une pensée du vampire dans un solarium qui m'a toujours fait rire. Et du coup les balles comme dans Underworld, bien moderne contre la créature ancienne.
Je repense à un élément, c'est pas forcément une arme pour tuer les vampires. Il y avait un traitement original, on était sur la lumière du soleil, dans Daybreakers, où la lumière du soleil devient un élément de guérison de l'état du vampirisme, donc c'était vraiment un traitement assez original.
Ce qu'on peut noter en fait dans la chasse aux vampires et dans les œuvres vampiriques récentes, c'est cette idée en fait que la fiction se déroule davantage aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Alors que dans les récits les plus anciens, je pense à Dracula, je pense au vampire de Polidori ou même à Carmilla, on était vraiment sur un monde européen en fait. On était dans l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale, mais on n'était pas du tout aux États-Unis. Donc c'est aussi quelque chose en fait qui est quand même assez symbolique de l'évolution de la chasse aux vampires. En fait, c'est ce fait qu'elle ne se déroule plus du tout par chez nous, alors que le vampire quelque part est né chez nous et que du coup ça se déroule davantage donc aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Comment expliquez-vous ce changement radical et surtout vous par rapport au choix que vous avez pu faire justement de l'endroit où se passent vos textes, est-ce que c'est vous êtes dans ce courant là ou pas du tout justement et pourquoi en fait?
Un des premiers trucs que m'a dit mon éditeur quand je lui ai dit moi mon histoire se passe nulle part parce que dans mon premier tome j'ai pris beaucoup de précautions pour qu'en fait ça se passe nulle part. Ça peut se passer un peu partout, mais c'est en Europe clairement, mais c'est pas ancré dans un endroit. C'était parce que, comme il l'a si bien résumé, faire quelque chose qui se passe à Vevey, c'est pas très glamour, quoi, ça vend pas du rêve. Et il y a cet aspect, en tout cas pour la Bitlit, où il y a. Je sais même pas comment décrire, j'aurais pas vraiment forcément de raison, mais c'est vrai que pour l'évasion, je pense que. Pour la partie américaine où tu dis que ça se passe maintenant plus aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi le rêve américain qui a joué là-dedans et puis que du coup la part mystère du vampire est devenue plus une part de rêve. Maintenant on a plus tendance à fantasmer d'ailleurs sur les vampires que d'en avoir peur. Je sais pas. Moi je sais que j'ai choisi de la mettre nulle part parce que j'avais envie que le lecteur puisse vraiment s'approprier l'histoire et la rendre, la faire entrer dans le moule que lui voulait. Mais après, je pense qu'on en discutera plus tard sur l'évolution de la figure du vampire et de ce qui intéresse maintenant dans le vampire, mais je pense que c'est lié avec une des prochaines questions.
Moi, non, en fait, ça se passe, mes histoires se passent plutôt en Europe, parce que je ne suis pas victime du rêve américain. Ça me fait pas rêver. Le premier tome se passe en Angleterre. En référence directe à Bram Stoker. Et le deuxième tome se passe en Roumanie, en fait, là où le mythe vampirique de Bram Stoker est né. Moi, je parle, enfin, l'histoire de l'image tout, c'est qu'en fait, les vampires sont, les strigoi, c'est le terme roumain, sont contingentés, ghettoisés dans une zone de la Roumanie, et leur but, c'est d'en sortir. Dans le tome 1, il s'installe à Londres, et dans le tome 2, le héros est obligé de retourner en Roumanie et il découvre sa culture avec quelques chocs psychologiques, parce que lui, il est du coup élevé dans un monde contemporain avec des traditions qui sont les nôtres. Il faut qu'il retourne en Roumanie où là, il est confronté à la culture des strigoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même très européen, même si c'est les Balkans en partie, c'est très très européen. Les États-Unis,
même si effectivement, en adaptant le mythe aux États-Unis, on peut avoir des choses très intéressantes, moi j'avais vraiment envie de retourner aux sources. Donc du coup, effectivement, les États-Unis ne m'ont pas emballé.
Alors, je ne suis pas persuadée que les vampires américains le soient parce que les Américains trouvent vachement évadant que ça se passe aux États-Unis. Ça, le côté escapiste de la littérature vampirique, si tant est qu'il soit si important que ça, il doit fonctionner pour nous, en Europe. Parce que ce soit Salem ou Détroit, encore que Détroit, ça doit un peu inquiéter les Américains quand même, c'est quand même chez eux, c'est leur bécon les bruyères. Donc ça doit pas fonctionner comme ça chez eux. Chez nous, il est évident que, effectivement, les lecteurs auront cette vision exotique d'une Amérique ou d'une Angleterre rêvée. Est-ce que j'ai envie, moi, de faire ça? Je comprends qu'on le fasse. Tu vois, Marika, il n'y a aucun problème.
Par contre, pour ce que tu disais, pour les Américains, eux, ils détestent les romans qui se passent pas dans un cadre américain. Donc, ce qui nous intéresse.
Alors, j'avais pas du tout envie de les traiter de sales provinciaux.
Voilà,
c'est un peu l'idée quand même.
Oui, c'est ça.
Perso, j'aime bien que ça soit. Alors, je pense par exemple à une nouvelle de Christian Villa qui se trouve dans Vampire à contre-emploi. Je parle de Massou. Elle se passe à Argenteuil. La nouvelle. Et ce que j'ai adoré justement, c'est dans la nouvelle de Christian, outre la violence, le côté extrêmement dévastateur de Christian Villa là-dessus, ce que j'ai adoré, c'est que non seulement il nous la ramenait dans un contexte totalement trivial, mais en plus il renversait énormément le rapport sadomaso, puisque en fait au départ on croit que c'est le vampire qui nous parle, il s'en est un. Mais il est en train de nous parler de la vieille dame de 60 ans qui l'a rendu comme il est et dont il est totalement fou et amoureux, alors que lui, à la base, au départ, quand il était humain, il avait 24 ans et il la considérait comme une voisine un peu encombrante. Alors ça donne un renversement total du rapport sadomaso habituel qu'on peut trouver dans certains romans vampiriques. Et j'adorais ça. En fait, ce que j'aime, c'est l'irruption du fantastique et du cataclysmique dans des circonstances tout à fait quotidiennes. De mon côté, que ce soit dans certaines aventures de Navarre, dans des nouvelles que j'ai écrites, mais dans L'Héritière, ce que j'ai voulu, c'est que le Paris que j'aime, puisque ça se passe à Paris, mes histoires la plupart du temps, le Paris que j'aime soit le cadre des choses fantastiques que je rêve. J'ai envie que la poésie que je sens dans cette ville, que je sais, que j'ai sentie depuis que je suis petite, elle prenne corps, y compris dans mes histoires. C'est pour ça que je mène les vampires dans un cadre tout à fait, on va dire, touristique, avec carte postale et tout. Navarre et ses copains, ils vont au boulevard de Bonne Nouvelle s'acheter des clopes, ils fréquentent un bar qui existe, ils vont se promener au Père Lachaise, ils font les courses au supermarché du coin, et ça m'amuse, ça m'éclate. Voilà.
Pour parler de l'évolution de la figure du chasseur de vampires qui est devenu avec des armes plus scientifiques, tout ça. Je pense que les États-Unis ont contribué à l'évolution de cette figure dans ce sens-là, puisque toute leur histoire, leur économie est basée un peu sur la guerre. Donc si la vision moderne du chasseur a suivi cette évolution, c'est fort probable que ça vienne d'auteurs américains et donc les histoires se passent là-bas. Après, il ne faut pas oublier que c'est cette culture qui nous vient, on est fortement influencé par la culture américaine, mais si on regarde bien, la figure du vampire a été reprise un peu partout. Il y a beaucoup d'œuvres japonaises dans le monde du manga où les histoires vont se passer au Japon. Il y a la saga Night Watch qui se passe en Russie. Donc finalement, chaque, chaque folklore a un peu repris la figure du vampire et l'a fait évoluer dans son contexte, dans sa culture.
On a commencé d'aborder le sujet tout à l'heure, c'est par rapport justement à la place de la religion et de la science. La religion, initialement, tenait une place prépondérante dans la chasse aux vampires. Donc les armes de base pour chasser un vampire, c'est notamment l'eau bénite et le crucifix, qui restent quand même les espèces d'icônes de la chasse aux vampires. On pense notamment à Van Helsing. À l'heure, justement, des pistolets à UV, les armes religieuses, donc crucifix, eau bénite, font-elles encore sens, en fait? Est-ce que, finalement, tout cet arsenal ultra classique a encore une utilité aujourd'hui, alors que justement on est dans des sociétés où la science, la technologie a nettement pris le pas sur le religieux? Mathieu.
En fait, je pense qu'on peut différencier donc ces deux figures du chasseur, donc la figure un petit peu à l'ancienne, comme tu dis, avec ce côté très religieux, et puis la figure moderne avec des armes plus scientifiques. Et je pense qu'elles sont liées à deux visions différentes, deux traitements différents du vampire, tout du moins. Il y a une vision peut-être plus ancienne ou archaïque, où on va plus parler du vampire comme une espèce d'entité individuelle, comme Dracula ou Nosferatu, vraiment un individu qui va être mis en avant. Et puis plus récemment, il y a une vision un petit peu plus biologiste, où on considère vraiment le vampire comme une espèce. Et dans ce cas-là, ça élargit un peu le propos, et c'est plus dans ce contexte-là qu'on voit souvent un chasseur qui lui est opposé avec des armes plus scientifiques. Donc je pense que la légitimité des armes dépend du traitement du vampire auquel on va opposer le chasseur.
C'est dans Mind Breaker, dont tu parlais tout à l'heure, qu'il trouve une solution biologique. J'ai vu un autre traitement, toujours dans Vampire à contre-emploi. Cette fois, c'est Simon Bréant qui imaginait que les vampires eux-mêmes s'étudiaient pour savoir d'où ils sortaient. Et au final, en fait, dans sa vision, les vampires sont en fait une sous-espèce, une super-espèce extraterrestre qui se récolte les uns les autres au fil des millénaires. Et la savante biologiste vampire qui travaille sur la question casse scientifiquement cette chaîne évolutive pour rester vampire sur Terre. J'avais trouvé cette vision très intéressante. Et à la fois, elle tuait des vampires, mais elle tuait les vampires de l'espace. Et elle les tuait tout à fait scientifiquement. De mon côté, moi, j'ai gardé l'appareil religieux fonctionne dans le monde selon Navarre. En fait, toutes les armes qui ont été inventées sous toutes les cultures contre tous les êtres ressemblant de près ou de loin aux vampires fonctionnent parce que tout existe, la science et toutes les religions. C'est une espèce d'énorme syncrétisme religieux scientifique qui englobe jusqu'à la physique quantique, laquelle n'est qu'un épiphénomène de la physique ultime, qui est un truc super compliqué, qui est tenu par les instances qui sont de sales flics métaphysiques. Donc, dans mon monde, ça fonctionne quand même, parce que je trouve que c'est plus fun comme ça. En fait, le lance-flamme, ça peut être une solution séduisante de mon point de vue, mais j'avoue que c'est plus rigolo pour moi quand on sort les... Comment elle s'appelait, c'est... Ouais, tu dois savoir ça. Les dames dans lesquelles on enferme les gens avec des piques. Des vierges de fer. Voilà. Tant qu'on est dans l'imagination de l'inquisition, de ces choses-là, je trouve ça amusant. Il faut garder le folklore, mince. Il faut regarder trace de ses racines. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense aussi, que je les garde parisiens. Parce que quelque part, pour moi, le vampire à la base, c'est un mythe français. Et d'ailleurs, Jean-Luc Rivera est d'accord avec moi. Voilà, après m'être abrité derrière le maître, je vais passer.
Moi, dans les chroniques des Stryges, les Machetoux, j'ai une formation scientifique. Donc, en fait, j'aborde le vampire sous un angle scientifique avec une explication scientifique derrière sa nature. Par contre, l'idée de l'opposer à des chasseurs qui, eux, sont religieux, ça permet de confronter enfin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les vampires finalement paraissent plus avancés que les humains qui eux encore traînent encore derrière eux des valises religieuses, des valises traditionnalistes. Ils sont confrontés à des vampires qui connaissent leur nature, qui savent qu'en fait ce qu'ils sont, tout simplement une mutation génétique. Et c'est cette confrontation qui m'intéresse, cette confrontation entre deux mondes, à la fois un monde vampire, un monde homme, mais un monde plus traditionnaliste et un monde plus avancé.
Je vais commencer par citer Gail Carriger qui... Gail Carriger qui citait peut-être quelqu'un d'autre, donc je ne sais pas exactement, mais qui disait que les monstres sont les reflets de notre société. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, la religion a quand même une place moins importante, en tout cas dans notre société. On est moins jugé sur est-ce qu'on va à l'église le dimanche ou pas, les crucifix typiquement. On est moins sous l'œil de Dieu. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que les vampires évoluent, qu'ils peuvent maintenant beaucoup plus facilement sortir quand il fait jour, que les crucifix ne fonctionnent pas, qu'il y a d'autres choses que les pieux pour les tuer. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai abordé le mythe du vampire pour moi, c'était pas... Bon, les miens, c'est suite à une malédiction. Donc c'est des vampires concrètement parce qu'ils ont besoin de prendre la vie d'autres personnes pour eux continuer à vivre. Mais c'est quand même une malédiction qui part de l'amour. Et quelque part, dans ma série, une des choses, seules choses qui peut les tuer, c'est ce qu'il a créé précisément, c'est-à-dire la magie morte. Mais sinon, les décapiter, clairement... couper le cerveau et la tête le cerveau et le cœur. Mais donc si la question à la base c'était comment ça a changé et pourquoi selon nous pour moi c'est vraiment parce qu'on est moins sous l'œil de Dieu et que du coup ce qui fait le monstre n'a plus, ce qui réprime le monstre n'a plus le même poids, n'a plus les mêmes raisons. Et on regarde, on n'a qu'à voir d'ailleurs maintenant avec la bitlite, qu'est-ce que le vampire en fait. C'est un objet sexuel qui, pour la bitlite, c'est ça. C'est quelque chose sur lequel on fantasme, donc c'est un interdit. C'est plus du tout jugé. C'est un glissement des mœurs.
Oui, rebondis seulement sur mes mœurs.
je rebondis, mais... Pour être un peu en désaccord avec toi. J'ai le sentiment qu'on est justement dans une société qui est en train d'opérer un retour fondamental sur le. Mais alors, pas, on sait, dans le traditionnel et le religieux, notamment aux États-Unis, où ça devient totalement difficile d'être athée. Voilà, où ils ont carrément des cellules d'entraide psychologique entre athées, alors là, quand même, comme s'ils sortaient de, je sais pas moi, d'une prise d'otage. Mon compagnon travaille très très fréquemment avec des Américains, et l'une des choses qu'il m'a dit, c'est que surtout, il discutait jamais religion, et surtout, il déclarait jamais qu'il était athée, mais jamais. Donc là, on est quand même du côté anglo-saxon de la force.
Oui, mais c'est quand même suite à un énorme mouvement. C'est pas genre juste. C'est pas. Si le vampire a évolué, il l'a pas fait en deux semaines. Parce que. Non, c'est juste pour dire que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je parlais pas d'un changement. Pardon.
Je disais que j'étais d'accord avec ce qu'elle disait tout à fait, que pour moi c'est pas antithétique, c'est juste que la figure du vampire a changé pas en deux semaines parce qu'on s'est dit genre ah bah que ce serait cool de le faire ça, c'est que c'est tout un glissement progressif. Ce dont je parlais, c'était sur des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs maintenant on change, ce qui revient à la mode, c'est le, par exemple c'est le zombie, c'est plus les grandes, je cherche un mot en français, les grandes tendances maintenant, ça part sur le zombie, c'est plus sur le vampire. Le vampire va certainement revenir à la mode bientôt, enfin bientôt dans quelques années. Mais toute l'évolution du vampire dont on parlait depuis sa création, c'est pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais.
On n'a pas parlé de Twilight, mais c'était le moment.
Alors pourquoi
on est au point Twilight.
Voilà, c'est le point. On a rejoint
le nouveau
un
point
repère. De... Non, justement sur ce que tu disais, effectivement, on a d'un côté un retour des valeurs traditionnelles. de l'autre côté, et Twilight justement a marqué ce point du retour des valeurs traditionnelles et de la démonstration, enfin dans le sens où on enlève le côté monstrueux du vampire pour en faire quelque chose de très sentimental, édulcoré, voilà. Et moi ce qui m'intéresse, hein, ce que je trouvais intéressant dans le mythe du vampire, c'était le côté subversif, le côté confrontation à la société, et ce vampire Twilight qui est venu nous...
C'est pas ça, sans
voilà, ambiance. Comme un ovni, comme ça. Il est passé. J'ai trouvé ça très perturbant. C'est pour ça que j'ai eu envie de décrire sur le vampire. Enfin, c'est d'ailleurs Twilight qui m'a donné envie de réaborder le thème du vampire. Parce que je me disais, mais c'est pas possible qu'on puisse faire un thème d'une telle démonstration d'un monstre. Enfin, et sortir de son contexte à ce point. Et du coup, j'ai voulu le remettre dans le monstre en le comprenant, mais pas en le défigurant ou en le castrant, quoi, parce que là, c'est du domaine de la castration pour moi.
Non, c'est bon, j'ai rien à
ajouter. Il y a une question. Adrien, une question.
Je voulais savoir s'il y avait des nouvelles où en fait, bah, du coup, c'est toujours la croix qui est utilisée pour repousser les vampires. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles ou des films où au lieu que ce soit des chasseurs catholiques, c'était des chasseurs juifs ou musulmans en utilisant une étoile de David ou une main de Fatma ou des trucs comme ça.
Il y a dans... Merci Thompson. Toi, tu peux répondre, tu l'as dit.
Oui, en fait, il y a des œuvres où, quelle que soit la symbolique religieuse, quelle que soit la religion, le simple fait d'avoir la foi dans une déité, que ce soit les religions juives ou d'autres religions, en fait, hein, le fait d'avoir la foi et de brandir un insigne ou un symbole de cette foi avec conviction suffit, en fait, à repousser le vampire. Et ça va même à un point où un religieux qui n'aurait pas la foi, qui brandirait un crucifix, par exemple, serait extrêmement en danger, parce que du coup, ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là.
Ouais, c'est un vecteur.
C'est un des intervenants hier qui rappelait ce passage de Bal des vampires, où t'en as un qui revient après avoir été vampirisé, et on essaye de l'éloigner à la croix, avec une croix, et il dit « ça marche pas, je suis juif ». Tu as dans Terry Pratchett « Carpe Iugulum », dont je parlais hier, tout un passage où on explique qu'il faut emporter dans la mallette du chasseur de vampires tous les symboles religieux du disque monde, parce qu'on ne sait jamais celui qui va marcher. Donc il y a une scène ridicule où on a le prêtre de la seule religion monothéiste du disque monde qui fouille fébrilement dans sa besace pour sortir le bon truc. Et ça ne fonctionne jamais. Ou alors il y a... Hein,
dans la momie.
Et il y a un film de la Hammer aussi, un autre dont parlait Nicolas hier. Et là, clairement, c'était. Tu n'étais pas là.
Bah, écoutez,
là, ça va me revenir, mais est-ce que l'une d'entre vous, Marc, tu avais quelque chose à dire?
Non. Ah, c'était.
Mais c'est ce qu'Adrien a dit justement, c'est Mercy Thompson qui est c'est un agneau, il me semble qu'elle a autour du cou, mais qui retient sa foi et du coup ça repousse à cause de sa foi et pas de l'objet lui-même.
Ouais,
c'est un vecteur de. Du coup, c'est ta foi qui fonctionne et pas le. C'est quoi le mot que je cherche? L'objet.
L'artefact, exactement.
Le chasseur de vampires est bien souvent doté aujourd'hui lui-même de pouvoir, en fait, ce qu'on n'avait pas forcément dans le cas de Van Helsing, qui est un être humain standard, même s'il a des connaissances, il n'a pas de pouvoir surnaturel à proprement parler. Aujourd'hui, justement, on a des chasseurs de vampires qui ont des capacités surnaturelles. Quand il n'a pas lui-même du sang de vampire dans les veines, d'ailleurs. Pensez-vous, du coup, qu'aujourd'hui, à l'époque contemporaine, le chasseur de vampires humain n'a strictement aucune chance contre le vampire? Est-ce que c'est ça qui fait que les chasseurs d'aujourd'hui, en fait, ne sont même plus des êtres humains, quelque part?
Moi, je soutiens un peu l'inverse avec Elvira Time. C'est qu'au lieu de booster les capacités des chasseurs de vampires de manière surnaturelle, j'ai amoindri celles des vampires pour les rendre quasiment proches des humains, mis à part un métabolisme qui leur permet de guérir plus vite, une longévité accrue. Donc je pense que c'était intéressant de revenir au chasseur fondamental, vraiment cette image du super prédateur que représente l'homme sur les espèces qui l'entourent, et de montrer qu'il est un prédateur même pour une espèce qui le prédate lui-même. Donc voilà, j'ai voulu rééquilibrer les forces de manière régressive plutôt que de faire évoluer de manière surnaturelle les chasseurs.
Dans le monde que j'ai créé avec les vampires, clairement, le discours est net. C'est si les humains se rendaient compte que les vampires existent réellement, ils les balayeraient. Parce que le nombre, parce que la technologie, c'est dit par les instances dirigeantes du monde surnaturel qu'il ne faut pas se montrer, parce que d'abord les humains ont été choisis à la base, et ensuite parce qu'ils sont arrivés à un point d'évolution où ni vampire, ni loup-garou, ni quoi que ce soit n'aura la moindre chance si les humains se rendent compte. Et d'ailleurs, ça, c'est dans l'héritière. C'est dit dans l'héritière, mais j'ai une nouvelle ultérieure où carrément les humains ont gagné. Il n'en reste plus. Il ne reste que Navarre. Et peut-être son créateur, dont on sait qu'il le pourchasse dans les siècles des siècles. Voilà. Il en reste quelques-uns, mais qui servent de vache à lait aussi. Donc, j'ai pas la thématique du chasseur parce que, en fait, les proies se cachent et ce sont les vampires.
C'est un peu pareil dans ma série, les vampires sont en mauvaise posture par rapport aux êtres humains, puisqu'ils ont été pas balayés mais repoussés au fond des Carpates, ils sont maintenus prisonniers sur une zone géographique très petite. Après, j'ai basculé sur un autre aspect, c'est-à-dire que moi c'est un peu une uchronie, c'est-à-dire que le Vatican et la religion catholique ont encore une grande influence sur l'Europe, et du coup le Vatican a besoin des vampires pour imposer une idéologie religieuse. Donc en fait ils sont à la fois cantonnés sur un territoire restreint, mais beaucoup utilisés médiatiquement pour propager une idéologie. Et paradoxalement, certains vampires sont utilisés pour chasser des vampires qui seraient peut-être un peu trop... qui aurait l'envie de se mélanger aux humains. Voilà. Donc du coup, c'est inversé, utiliser le vampire comme un épouvantail. Alors du coup, il est bien vampirique, hein, il a des aspects pas sympas du tout, mais il y a certains vampires qui seraient peut-être prêts à faire les concessions pour vivre parmi les humains, et ceux-ci sont chassés.
Je réfléchissais à comment répondre à la question et vu mon expérience avec le vampire, j'ai deux réponses vraiment à l'opposé. Il y a le côté vampire Hollywood, vampire liquide, super fort, qui plus on donne en fait de pouvoir au vampire, plus il faut que celui qu'on met à l'opposé soit fort, parce que on va être honnête, un vampire hollywoodien, on met un simple humain contre, il a aucune chance de tenir 30 secondes, il a aucune chance, il y passe direct. Donc après tout dépend du vampire qu'il a en face et puis de la résistance ou du niveau d'attaque qu'il y a. Dans Maeve par exemple, les simples humains n'auraient aucune chance contre un vampire. Par contre, mon héroïne qui elle est à moitié vampire et à moitié mage, elle peut. Mais c'est un peu un conflit moral puisque quelque part elle tue les siens. Par contre dans mon autre série Bad Moon Rising où là les vampires sont complètement déshumanisés, c'est juste des créatures qui sont mues par l'instinct. Les chasseurs sont de simples humains. Et donc c'est vrai que tout dépend de ce qu'on a fait du vampire, de quel niveau on le prend. Il faut un chasseur en face du vampire, il faut un chasseur de force équivalente.
À trois, tout le monde fait une grimace.
Ah, mais tu me l'as réveillé.
C'était Fabien.
Mais t'en fais bien.
Oh, le regard. Oh là là.
Ça C'est vrai que la figure du chasseur et du vampire sont vraiment fortement liées. Donc en biologie, quand il y a vraiment des interactions si marquées entre deux espèces, entre guillemets, on parle de coévolution. Donc c'est normal que dès que l'une des deux figures va évoluer à travers la culture, l'autre va suivre d'une manière ou d'une autre. Et comme Marika l'a dit, il y a deux visions du chasseur. Il y a un peu comme celle du vampire. Il y a celle où on va vouloir privilégier l'individualité du chasseur qu'on va mettre en avant. On va lui donner des pouvoirs, lui donner les aptitudes à combattre les vampires. Et puis il y a la fonction de chasseur, plus sociale ou profession. On voit que n'importe quelle personne qui peut s'équiper d'un armement anti-vampire va pouvoir officier en tant que chasseur. Je pense à des films comme le Vampire de John Carpenter ou des choses comme ça. Donc une fois encore, c'est une question de choix, soit par rapport à la vision du chasseur qu'on veut privilégier, soit à la figure du vampire qu'on va lui opposer. Et à chaque fois, les deux vont perdre parce que voilà, le chasseur et le vampire sont liés. Donc ça, on peut parler d'opposition d'espèces. On va avoir largement un vampire peut-être un petit peu moins fort, moins hollywoodien, et puis des chasseurs mieux équipés, ou alors une espèce d'opposition d'individualité avec le chasseur et sa némésis, plus vraiment un duel presque super-héros maintenant, avec l'évolution du chasseur qui a ses pouvoirs surnaturels. Donc comme tu dis, on arrive à des chasseurs qui sont mi-hommes, mi-vampires, et il y a même l'exemple de Trinity Blood, où c'est une sorte de vampire 2.0 qui se nourrit du sang de vampires.
Une autre des évolutions intéressantes dans la figure du chasseur à l'époque contemporaine, c'est ce basculement aussi qu'on note depuis plusieurs années du chasseur à la chasseuse. Justement, le fait qu'on part d'un plan des signes, mais aujourd'hui, en fait, quand on regarde ce qui se fait en littérature qui met en scène des chasseurs, on a plus de chasseuses de vampires, des Anne Tablec, des Maeve Regan, des Elvira. Je voudrais justement savoir comment est-ce que vous, en fait, vous expliquez ce basculement en fait vers une figure féminine très marquée pour ce qui était à la base une figure patriarcale bon chic, bon genre.
Je pense que les victimes des vampires étaient surtout des femmes et qu'elles se sont vengées, tout simplement, dans la littérature, je sais pas, que t'entends.
Que quand j'ai fait une héroïne, j'ai pas du tout réfléchi à ça en me disant quel message je vais pouvoir donner aux jeunes femmes qui vont lire mes livres. Je me suis juste dit, je suis une femme, moi, ce qui m'intéresserait de lire, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait. J'ai grandi avec Buffy, c'est ce que je veux faire. Ouais, ça. Je pense qu'on a quand même... Je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas envie forcément d'attendre qu'on vienne les sauver, mais qui ont envie de se sauver elles-mêmes. Et puis si jamais elles trouvent le prince charmant, c'est cool, elles peuvent le faire monter à l'arrière du cheval. Et c'est un peu c'est ce qui ressort dans les c'est ça. Donc c'est vraiment, je pense, et il y a aussi quelque chose, c'est que il me semble, mais peut-être que je vais me faire taper dessus direct par les gens qui savent mieux, qu'il y a plus d'auteurs femmes que d'auteurs hommes, et que du coup, en tout cas dans le mythe, sur le sujet, et du coup on s'approprie, on écrit ce qui nous plaît.
Même après Bram Stoker, le passage science-fictif qu'a connu le monde du vampire, c'était des femmes qui surtout s'en sont occupées. Tammy Cree, Catherine Moore, Anne Rice, c'est un peu ultérieur. Je pense aux vampires de science-fiction, qui y avait d'autres à part Tammy Cree. Bah oui, mais il m'en manque une autre de la même époque. Mais dans mon état d'égarement, je ne sais plus. Après Bram Stoker, ce sont des femmes qui se sont remplies par une mythe. Alors, tout à l'heure, tu disais, finalement, pour reprendre l'image du cheval aussi, le vampire, c'est peut-être un peu un sextoy, en fait. Et donc, comme les filles se sont autorisées à avoir une sexualité épanouie, un peu rigolote, eh ben, elles se sont aussi autorisées à changer un peu la gueule du prince charmant. Et il est quand même vachement plus sexy, hein. faut le dire. Voilà. Moi, j'ai pas fait de chasseuse de vampires. J'ai fait une fille qui vivait avec. Mais c'est
Agnès, elle a d'autres problèmes que changer monde. Hein. Elle s'occupe d'elle-même, donc voilà. C'est Navarre qui se charge de chasser ses copains. D'être le vampire 2.0 dont tu parlais, dont je viens d'apprendre l'existence.
Oui, alors moi, du coup, j'ai quand même choisi une héroïne féminine, même si je suis un auteur masculin, mais du coup, c'était vraiment la volonté de faire un hommage à la série Buffy, une forme d'hommage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que donc, Buffy a été créée par Josh Whedon, et qu'à la base, c'était une espèce de fantasme de geek, de voir une chasseuse côté des tueurs des vampires, et que les femmes se sont réappropriées la figure de la chasseuse, maintenant, à travers la littérature. C'est quelque chose qui avait été fait pour les garçons et qui finalement était apprécié des filles et totalement réadopté.
Comme beaucoup de jouets pour les petits garçons actuellement.
Il y a un dernier point qui me semble intéressant de noter par rapport à la figure du chasseur, c'est que c'est et du vampire dans la littérature contemporaine, c'est le fait que à l'époque de Anne Rice, l'auteur comme Anne Rice et Chelsea Quinn Yarbrough, les auteurs donnaient la parole aux vampires, ce qui n'avait pas été fait jusque-là, sauf à de très rares cas. Or, on a l'impression actuellement qu'on revient dans l'autre sens, et finalement, et que le vampire redevient objet et plus sujet, justement. Donc, je ne sais pas si, par rapport à vos ouvrages respectifs, en fait, si c'est symptomatique de quelque chose, ou si vous avez fait des choix à ce niveau-là aussi.
Ça rejoint ce qu'on disait récemment, un petit moment sur l'évolution, retour à la tradition. Et moi, en ce qui me concerne, je continue à donner la parole aux vampires. Moi, mon point de vue dans tout ce que j'écris, que ce soit les nouvelles ou la série vampirique, il est du point de vue du vampire. Et c'est le point de vue du vampire sur l'humanité. Et c'est vrai que maintenant, comme on a un retour un peu des valeurs traditionnelles, on pourrait voir revenir. Le point de vue des humains sur le vampire avec un point de vue assez négatif, un point de vue, on va dire, discriminant. Le vampire n'est pas un être humain, donc on va le chasser, que ce soit le chasser sur un autre territoire ou le tuer directement. Et c'est vrai que moi, je suis encore sur essayer de me mettre dans les chaussures d'un vampire et essayer de me mettre dans la tête d'un vampire, une société vampire, voir comment elle verrait la société humaine de nos jours.
Je pense que dans mon œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, ça d'habitude, c'est plutôt le vampire, j'ai vraiment pris comme c'est une métaphore des choses sombres, des pensées sombres qu'on peut avoir en nous. C'est pas vraiment, à dire clairement, je me suis servi du vampire comme prétexte, ça aurait pu, je suis un peu tombée dedans par hasard ou à cause de Twilight, puisqu'on l'a mentionné, maintenant on peut dire le nom. C'est que j'ai vraiment détesté et j'ai fait. Mais c'est ce qui m'a donné quand même envie d'écrire dessus pour mettre ça à ma sauce d'une certaine manière. Mais c'est vrai que je donne pas la parole. Enfin, si, quelque part, en fait, je donne la parole au vampire en donnant la parole à une demi-vampire, mais elle se bat contre son état. Et tout son chemin, ça va être d'accepter son côté obscur. Et c'est le chemin qu'elle fait pour l'accepter. Mais c'est, je pense, quelque chose qu'on a tous en nous, une part obscure. Et qu'il faut apprendre à gérer pour bien vivre sa vie. Donc c'est, voilà.
Le premier roman que j'ai écrit sur les vampires commence en gros comme ça. C'est une phrase. C'est un monstre inhumain, dit quelqu'un à mon vampire qui est en train de l'écouter. Et mon vampire a aussitôt envie d'égorger l'imbécile qui est en train de lui dire ça. Parce que pour lui, le monstre, c'est l'homme. Voilà. Ils ne se sont pas plus monstrueux que les gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Et dont d'ailleurs, il est en train de traquer les derniers criminels de guerre à ce moment-là. Donc, voilà. Pour moi, le vampire, c'est nous. Il y en a plein dans cette salle. Et une fois que j'ai plombé l'ambiance, je te passe là.
C'est gentil, bah juste pour évoquer mon expérience sur les deux romans que j'ai écrits, j'ai vraiment les deux visions. Donc le premier roman, il venait de le narrateur et le vampire, donc il ne peut pas avoir plus la parole que ça. On voit l'histoire à travers ses yeux, on sent ses émotions, Par contre, je l'ai vraiment traité de manière individuelle. C'est-à-dire, même si on sait qu'il y a l'existence d'autres vampires, je n'aborde pas la question de la société des vampires par rapport à celle des humains. Par contre, dans Elvira, du coup, là, c'est vraiment le... Je me suis servi du vampire plus dans un contexte sociologique. Donc là, c'est plus... je m'infère plus à l'espèce. Et il y a des porte-parole, bien sûr, mais donc, ils ont moins la parole. Enfin, encore, c'est une... ça dépend de la vision du mythe qu'on veut exploiter pour son œuvre. Donc, tu es bien placé pour savoir qu'il y a toute une diversité du traitement du vampire. Et que je pense que toutes peuvent encore coexister.
J'avais une dernière question justement sur la relation entre le chasseur et sa proie, que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau de la dualité entre les deux. C'est que, on en parlait tout à l'heure, en fait, il y a un empowerment finalement des deux, à la fois pour, que, bah, pour qu'ils soient en mesure de se combattre l'un l'autre, mais aussi on a un basculement et une attirance qui est arrivé en fait de la chasseuse ou du chasseur pour le vampire en fait. Et je voulais savoir justement votre sentiment là-dessus, justement, comment est-ce que vous expliquez qu'on on est parti de quelque chose comme la lutte entre Van Helsing et Dracula, où Van Helsing est buté borné et il faut tuer Dracula envers et contre tout, même si à la fin justement il y a une espèce d'ouverture où il se rend compte qu'ils sont peut-être justement allés trop loin, à ce qu'on a actuellement dans la plupart des séries de Biblique, où finalement il y a quand même une forte romance qui se met en place entre le chasseur et sa proie. Pour ça, je pense qu'on va commencer par Marika.
Moi, dans ma série, si jamais elle traque son père, donc c'est pas une énorme romance avec la vraie proie. Ou la justice. Je crois qu'il y a des mots un peu bizarres avec son frère, mais c'est pas... en fait, je pense que... j'y réfléchissais tout à l'heure. Entre chasseur et proie, quand on parlait du je sais plus comment qui vient, de l'équilibrage des forces, il en faut peu pour que le chasseur devienne la proie et que la proie devienne le chasseur. Donc du coup, je pense qu'il y a, toujours eu quelque chose qui attire dans le pouvoir, quelqu'un qui peut nous suivre et être une vraie concurrence, qui peut, dans le danger. Et je pense que qui se ressemblent ou s'assemblent, sans faire de mauvais jeux de mots. Et je pense qu'il y a cette dualité de... On cherche des gens avec qui on a des choses en commun, donc quelqu'un qui peut être un vrai challenge, mais qui est assez fort pour nous attraper, ça peut devenir quelque chose de très excitant, que ce soit moralement ou physiquement. Il y a un jeu qui se développe au final dans la traque. Je pense qu'il y a au moins un vrai chasseur, quelqu'un qui va chasser dans les bois, c'est un peu cliché, mais qu'est-ce qui l'attire là-dedans? C'est qu'il y a un jeu psychologique, il y a quand même un aspect psychologique très important. Donc quand on chasse une autre créature intelligente, ça peut, à mon avis, facilement basculer dans une attirance.
Donc ça va être le point chasse et pêche.
Tradition.
Tradition de fait. Non, sur le rapport entre la proie et le chasseur, je pense que ce soit, enfin, le vampire, il y a une double... Dans les deux cas, l'homme est une proie, parce que le vampire s'en nourrit. Mais le chasseur, enfin l'homme, chasse le vampire pour sauver sa peau, ou parfois pour d'autres raisons, qui sont des raisons plus moralistes ou plus... oui, moralistes. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir le chasseur de chasseur d'hommes. C'est-à-dire, qui est-ce qui chasse, qui chasse les hommes? Et qu'est-ce que c'est? C'est un monstre aussi, quoi. C'est, déjà, le chasseur d'hommes, c'est pas forcément... voilà. C'est une notion qui met mal à l'aise, mais celui qui va chasser le chasseur d'hommes, normalement, ça met encore plus mal à l'aise. Et quand c'est un être humain, effectivement, ça pose la question.
Alors, la problématique du pouvoir et de la traque n'a jamais été celle de mon avare. Lui, tout ce qu'il demande, c'est faire la fête avec ses potes et manger de temps en temps. Il trouve que moralement c'est plus satisfaisant de buter du vampire parce que c'est à égalité et que avec les humains c'est pas à égalité et que, je l'ai déjà dit, c'est, la traque c'est comme la baisse, quand c'est pas à égalité c'est pas drôle. C'est donc toute la problématique du pouvoir, je la conçois, mais dans mon univers elle a pas. elle n'a pas de cours. Par contre, effectivement, je l'ai vu jouer beaucoup dans énormément de romances vampiriques très intéressantes par ailleurs. C'est un des problèmes de l'ESTA, mais par exemple. Mais au final, l'ESTA, il a surtout envie de faire ce qu'il veut. Point. Et pas tellement d'être le roi des vampires. Même si, si à un moment il est tenté par la scène rock parce que c'est shiny, parce que ça fait de boxon et que ça emmerde tout le monde. Mais au fond, à part le côté extrêmement où il pousse la subversion jusque-là, l'ESTA chez Anne Rice, il est pas, il court pas après le pouvoir. Au fond, c'est un brave petit vampire qui cherche des amis. Voilà. Puis c'est tout pour boire.
Du coup, moi, j'ai défendu le point de vue inverse. Hein. J'ai voulu que le chasseur reste chasseur ou chasseuse, hein, et le vampire reste vampire. J'ai enlevé toute possibilité de romance entre les deux. Je trouvais que ça ternissait un peu la dualité qu'on pouvait poser aux deux figures. Après, ça peut être un traitement original ou de moins en moins original avec tout ce qui peut sortir. Mais je préférais les figures qui s'opposent, même si. Enfin, souvent, il y a un respect qui peut s'établir entre la proie et le chasseur, mais de là à devenir une romance, ça me semblait un peu grossi et ternissant le tableau, dans le sens où il faut déjà que la chasseuse craque, que le vampire craque pour son ennemi juré. Donc, voilà, je suis revenu sur le point de vue inverse.
Juste de réfléchir, en fait, à cause de ce que tu disais, c'est qu'on a, avec, on a collé, entre guillemets, le tampon Roméo et Juliette sur la figure du vampire pour en faire une histoire d'amour impossible, parce que concrètement, l'histoire d'amour entre le chasseur et la proie, c'est quelque chose d'impossible. C'était juste une remarque.
Je disais ce que Mathieu disait. Que
si lui, le chasseur tombe amoureux de sa proie, il meurt de faim. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est difficile. Beaucoup de vampires meurent de faim dans Twilight, sans végétarien.
Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser aux différents intervenants? Quelqu'un, monsieur?
Au début de la conférence, on parlait du chasseur qui est devenu urbain en ville. Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'aux États-Unis, c'est, on va dire, une civilisation très urbaine, donc ça se passe dans leur milieu, alors qu'en Europe centrale et de l'Est, c'est une culture beaucoup plus rurale. Donc au final, les gens habitant plus dans la campagne, les choses se passent un peu là où, je peux dire, où il y a de la vie, mais où les gens s'activent. Alors que aux États-Unis, comme ils sont très villes, ils font ça en ville, tout simplement.
Déjà dans la culture américaine, on peut citer Récent True Blood, hein, qui se passe pas forcément en milieu urbain, mais plus dans les bayous. Tout dépend du traitement qu'on veut faire de la figure. Je pense que tout coexiste encore.
C'était juste pour abonder dans ton sens. Les vampires que j'ai, quand j'ai vraiment souvenir, c'est True Blood ou le Salem de Stephen King. C'est dans des toutes petites villes où, en gros, il y a Main Street et les champs autour. C'est une urbanité qui est très relative, en fait. Alors, tu vas le retrouver effectivement dans les stades vampires, on se retrouve au cœur des villes, mais je suis pas sûre que ce soit. Tellement une thématique américaine, je l'ai plutôt vu chez les anglo-saxons, enfin chez les anglais, ça, le côté très urbain.
Dans la fantasy urbaine, mais c'est un mouvement général, hein, ça touche pas rien que le vampire, hein, ça touche aussi les fées, toutes les créatures qui étaient issues du folklore et donc de la campagne, on se retrouve incarnées dans les villes. Donc oui, les fées, les renards, oui. Les créatures mythiques. Les loups-garous, le loup-garou de Londres. C'est un phénomène générique. Et on le trouve d'ailleurs dans le roman de Bram Stoker, c'est-à-dire que le vampire part du fin fond des Carpates et arrive à Londres. Donc c'est aussi une métaphore du mouvement des populations vers les villes qui se fait depuis le 19e siècle.
Alors, je n'ai rien de plus intelligent que tout ce qu'ils ont déjà dit à dire, juste que je pense que ça dépend vraiment de l'histoire et de ce qu'on veut donner de l'histoire, choisir entre les petites villes et le milieu urbain. Mais peut-être que toutes ces créatures ont été aussi ancrées dans le milieu urbain pour montrer que ce n'est pas quelque chose du passé et pour vraiment les faire appartenir au présent. Et que c'est plus facile de montrer que, enfin, de faire ressentir qu'ils pourraient être là, qu'ils sont là, maintenant, s'ils sont par exemple à New York, que s'ils sont, je ne sais pas. À mes yeux, c'est la seule petite ville que je connais dans le
temps. De toute façon, le vampire, il va aller là où il y a de la nourriture, donc l'urbanisation du vampire suit l'urbanisation de l'homme.
Oui, on prend une dernière question.
Ah, c'était pas une question, mais c'était par rapport. Dans les jeux de rôle Vampire Mascarade, il y a vraiment eu beaucoup de remaniements et tout ça, où du coup les vampires étaient avec une place de seigneur avant. Ils se sont pris l'Inquisition dans la tronche. Ils ont vu qu'en fait, à l'Inquisition, ils étaient totalement désarmés. Et du coup, ils ont créé la mascarade qui permet de faire croire que c'est du folklore et que les vampires n'existent pas. Et mais le problème, c'est que du coup, ils essayent de s'humaniser. Et à l'opposé, il y a les vampires du sabbat qui, eux, sont en mode on est des monstres et on est fiers. Et du coup, et qui traitent les vampires qui cherchent à se prendre pour des humains, pour des. Qui n'ont pas les crocs d'être des vampires. Mais du coup, c'est le truc de ne pas vouloir tuer les humains, parce que moins il y a d'humains, et plus il y a de vampires, et plus il faut partager le bétail et tout ça. Mais il y a tout un truc sur planquer l'existence des humains. Est-ce que les chasseurs sont encore des humains, avec des pouvoirs spirituels, et de pas tuer les humains pour garder le cheptel intact?
Je pense qu'on va terminer là avec cette table ronde qui va être succédée d'une nouvelle table ronde, cette fois-ci sur la mythologie du chasseur de vampires.